Actu SF, les podcasts.
Bonjour et merci d'être présent ce matin pour notre troisième, déjà le temps passe, on ne s'en rend même pas compte, des Imaginales. Le Festival des mondes imaginaires d'Épinal, c'est la 17e édition, on a démarré en 2012, vous le savez, on est en 2017. On ne se rend pas compte comme le temps passe, c'est qu'à chaque fois, il y a des nouveaux lecteurs, mais il y a aussi des têtes connues qu'on retrouve d'année en année. C'est un peu comme une famille un peu éclatée et de temps en temps, on fait cette fête de famille, on a réservé et ils sont là. Vous êtes là. C'est donc un bonheur de vous retrouver. Évidemment, ce rendez-vous du samedi matin à 11h, c'est devenu depuis maintenant, pas la première année, on l'a créé ça il y a quelques années après le début du festival. J'ai voulu mettre l'accent sur un écrivain français ou francophone. Il est arrivé déjà que c'est un écrivain belge. Un écrivain français, en tout cas de langue française, qui a déjà attiré l'attention des blogueurs, des critiques littéraires, des lecteurs, les trois à la fois, ou l'une de ces catégories, dont on a donc repéré l'intérêt et le talent. De préférence aussi, quelqu'un avec qui on sera en affinité sur l'amour de la littérature et la volonté de le faire partager, c'est-à-dire de ne pas favoriser une culture de ghetto ou élitiste. On peut être bourré de talent, avoir des grands livres ou des grandes nouvelles, et puis avoir un rapport simple et direct avec ses lecteurs. C'est aussi un des critères de sélection. Parfois, on me demande sur quels critères sont choisis les coups de cœur. Le talent, d'abord. Le coup de cœur de la directrice artistique du festival. Je discute, bien sûr, avec toutes les équipes, mais ça, c'est mon choix, comme on dit. C'est vraiment un choix que j'assume totalement et c'est des rencontres. Aussi, on le disait, les Imaginales, c'est le festival des belles rencontres et un coup de cœur, c'est toujours le coup de cœur de Stéphanie Nicot, le coup de cœur de la ville d'Épinal et le festival Imaginal. Et en lui donnant l'opportunité de rencontrer ses lecteurs, de dire « regardez talent, regardez cet écrivain qui débute relativement dans le métier, c'est jamais, on va pas faire un coup de cœur pour Pierre Bordage. Pierre Bordage, un coup de cœur permanent depuis 30 ans quasiment, pas tout à fait encore, mais presque. Mais c'est vraiment un ou une jeune auteur. Et donc, cette année, c'est Jean-Laurent Del Socorro qui est devenu coup de cœur du festival en deux romans et quelques nouvelles. Je dirais même que, pour ne rien vous cacher, c'est dès la lecture de Royaume de Vent et de Colère, son premier roman, que j'ai décidé que Jean-Laurent Del Socorro serait coup de cœur du festival, mais que quand même, il faut être un peu sérieux, y compris pour nos libraires, on va attendre le deuxième roman. Non pas que je m'inquiétais de la qualité de l'œuvre, j'en étais totalement rassuré dès le premier, mais que quand même, je trouvais que c'était un peu plus sérieux. Donc on attend toujours qu'il y ait au moins deux romans pour qu'un auteur soit coup de cœur, parce que voilà, il faut que les lecteurs partent avec au moins deux livres et peut-être un recueil de nouvelles ou du moins Créature, l'anthologie, qui est évidemment ouverte par la nouvelle de Jean-Laurent Del Socorro. J'en lirai un tout petit extrait tout à l'heure. Alors, rentrons dans l'œuvre directement. Silène Edgar, qui a plein de casquettes, elle est modératrice du festival et avec talent. Elle est avant tout auteur elle-même, elle a aussi récompensé, primé. Et elle est parfois, de temps en temps, sur quelques cafés littéraires, en particulier le coup de cœur, on se retrouve chaque année. Lectrice, elle nous lit des extraits, ce qui me laisse un peu de temps pour écouter et aussi pour rebondir. Entrons dans l'œuvre, entrons dans Royaume de Vent et de Colère, la voix de Jean-Laurent Del Socorro par Céline Edgar. Merci.
Merci beaucoup. Juste pour remercier Stéphanie qui me fait confiance sur ses lectures et remercier Jean-Laurent pour ses mots parce que j'attendais moi aussi de pouvoir les lire pour le coup de cœur. Je pousse la porte qui s'ouvre sur une chambre étroite avec une seule fenêtre. Je m'en approche pour écarter les volets. Le mistral qui souffle avec force me rend la tâche peu aisée, mais les deux battants de bois cèdent finalement. L'odeur salée des embruns emplit immédiatement mes narines. Un gabian sur le toit d'en face me dévisage, surpris. Ses cris rompent brutalement le silence nocturne. L'oiseau se tait enfin quand il comprend que je ne suis pas une menace pour lui. Les rues en contrebas sont désertes. Je m'appuie sur la balustrade pour pencher davantage la tête dehors. Le vent siffle bruyamment dans mes oreilles. J'aperçois la lune gibbeuse qui reflète sa lumière fade sur la mer. Marseille dort. Je referme les volets. Le froid envahit la chambre, emmenant avec lui un parfum iodé qui flotte maintenant dans la pièce. Le monde n'est qu'une immense pelote de fragrances. La guilde nous apprend à en démêler un à un les fils, à les reconnaître, à écarter les inutiles pour n'en garder qu'un seul, celui que nous devons défaire. Quand nous l'avons trouvé, nous le remontons patiemment jusqu'au bout. Enfin, nous tranchons ce nœud si fragile qui relie notre victime au monde. Je m'assois sur le tabouret devant la cheminée qui crépite. Je tends vers le feu mes doigts tavelés par le temps. Ils sont tellement glacés que la chaleur les réchauffe à peine. Nous ne sommes qu'une main qui prend l'or. Peu importe qu'il soit catholique ou protestant. Je laisse à la politique à ceux qui nous payent. Les rois de France se succèdent, mais la guilde leur survit. On ne tranche pas le bras qui tient le poignard, au risque qu'il se retourne contre vous. J'ai dirigé la guilde pendant 20 ans, mais cela fait longtemps que je ne me suis plus occupé personnellement d'un contrat. Je ne pouvais pas prendre le risque que celui-ci échoue. Les enjeux sont trop importants. J'ai soudoyé Pierre de Liberta, le capitaine de la Porte Royale, qui attend mes instructions. Silas, mon cher Turc et lieutenant, s'apprête à saboter une des murailles de la ville avec ses hommes. Si tout fonctionne comme je l'ai prévu, cela devrait détourner l'attention de la milice et me laisser le champ libre pour mener à bien mes plans. Dans quelques heures, le consul sera mort et la République de Marseille avec lui.
Voilà, en quelques pages, tout au début du roman, on est page 18-19 du livre, l'univers est posé à travers un personnage, la guilde, vous avez bien compris que c'est une guilde d'assassins. Vous avez compris qu'on est à Marseille. Allusion catholique et protestant, vous avez compris que c'est la période des guerres de religion, c'est-à-dire tout à la fin du XVIe siècle. Henri IV vient tout juste d'arriver au pouvoir et est encore très contesté par une partie de la France. Et puis, le personnage qui s'exprime, dès le début, on sait qu'il y a un contrat sur la tête du consul de Marseille et d'une république. Alors, je m'interromps quand je découvre le livre, il y a 2 ans à peu près, et je m'interroge. Il y a vraiment eu, Jean-Laurent Del Socorro, une république à Marseille, ou vous l'avez inventée ?
Eh bien, elle a réellement existé. D'ailleurs, c'est ça qui est très drôle. J'écris beaucoup sur la matière historique, j'écris toujours sur la matière historique. Je dis souvent, l'histoire est plus fantastique en fait que la réalité. Il y a bien une république marseillaise, une république catholique marseillaise qui a duré quelques années. Je n'ai rien inventé. Il y a bien eu un contrat sur la tête du consul et les événements qui parcourent le roman sont bien réels. De la même façon qu'un de mes personnages secondaires, donc on dit souvent, mais c'est une uchronie, Royaume de Vin et de Colère. Non, la République a bien existé. Et la deuxième question, c'est quand même ton personnage de Chrétienne Daguerre, elle est dirigeante de la Ligue catholique du Sud, elle s'allie au roi d'Espagne, au duc de Savoie, elle trahit, se fait trahir, se fait emprisonner, s'échappe. C'est trop gros. En fait, tout ce qui arrive sur ce personnage-là est vrai. C'est vraiment une femme de pouvoir qui a existé, qui a eu une vie incroyable, qui a eu, voilà, des trahisons et s'est fait trahir. Donc l'histoire a beaucoup pour nous surprendre.
On est donc dans le contexte des guerres de religion. Et évidemment, même si on en parle moins aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui a marqué pas mal d'esprit à l'époque et même plus longtemps après. C'est quelque chose qui, même si ça n'a pas débouché tout de suite, a maturé dans le pays sur plusieurs siècles et qui a fini par déboucher sur la loi de 1905. C'est pas par hasard. Si la France a fait une loi de séparation des églises et de l'État, c'est parce que derrière, il y a la volonté de rompre, entre autres avec l'Église catholique, mais aussi tout ce background, tout ce passé sanglant des guerres de religion dont on voit aujourd'hui dans d'autres pays, quand on n'y met pas un coup d'arrêt, ce que ça peut donner. Justement, ces personnages qu'on va découvrir, puisqu'on découvre l'histoire de Marseille, cette époque, et aussi tout un complot, enfin, on va le voir, avec un jeu politique, puisque même si on ne le verra jamais, c'est une silhouette, on en parle, mais évidemment Henri IV est dans la coulisse, c'est quand même lui l'homme de pouvoir et ses réseaux. On a des personnages qui sont hantés par leur passé. C'est aussi très frappant. Tous ces personnages qu'on va voir, les principaux personnages qu'on va voir se croiser, sont des personnages hantés par leur passé. Et peut-être justement, on pourrait découvrir un de ces personnages avec une scène issue du passé, et évidemment pas n'importe quel passé. Petite lecture.
Paris, Faubourg Saint-Germain, le 24 août 1572. Marie de Médicis n'oublie pas la conspiration de Meaux où son fils Charles IX a failli lui être enlevé. Elle a cantonné les familles protestantes venues assister au mariage dans le faubourg Saint-Germain, à l'extérieur de la ville. Philippa et les enfants sont endormis. Je vais marcher dans Paris, incapable de trouver le sommeil. Je suis sur le chemin du retour, quand le tocsin de l'église de Saint-Germain se met à carillonner. Des dizaines de cavaliers passent soudain devant moi. Ils pénètrent au galop dans le faubourg, épée au clair. La peur me vrille le ventre. Je cours derrière eux pour franchir la porte à mon tour et reste pétrifiée à l'entrée du faubourg. Les soldats fauchent, hommes, femmes et enfants qui essayent de leur échapper. Ceux qui résistent sont embrochés par les lanciers qui encerclent les maisons. « Papa !» Jacques et André, terrorisés, courent vers moi. Je voudrais leur répondre, mais je suis tétanisée. Un cavalier nous aperçoit et lance sa monture dans notre direction. J'ai la main posée sur la garde de ma rapière, incapable de la dégainer. Je n'entends que les hurlements qui résonnent dans les rues. Je ne vois que le sang qui coule. « Papa !» Mon corps répond enfin, je m'élance vers mes fils. Je peux encore les sauver. Ils ne sont plus qu'à quelques pas. Le cavalier les rattrape avant moi. Il fauche d'abord André dans le dos, puis Jacques. Il s'effondre dans mes bras. Le cavalier lève à nouveau son épée. La lame s'abat sur ma tempe, me projetant en arrière. Le cavalier croit m'avoir tué, mais il se trompe. Il a frappé du plat de la lame. Je suis sonnée, mais ma blessure n'est que légère. Ce sont les sangs mélangés d'André et de Jacques qui maculent mon pourpoint. Je reste immobile sous les cadavres de mes fils tandis que le cavalier s'éloigne. Dans la maison, Philippa se met à crier. Je ne bouge pas, la tête confuse et le ventre noué. Mes lèvres remuent en une prière muette pour que tout s'arrête. Le sang de Jacques continue à se répandre sur moi. Les hurlements de Philippa s'éteignent, d'autres les remplacent aussitôt. Jacques me fixe de son regard vide. Je ne peux pas fermer les yeux. Je suis là, Jacques, toujours. Nous nous regardons jusqu'à ce que les cris disparaissent, jusqu'à ce que les cavaliers repartent, jusqu'à ce que le silence revienne enfin. L'aube s'est levée depuis plusieurs heures quand le tocsin de l'église cesse de sonner. Je suis vivant, les cadavres de Jacques et d'André dans mes bras, incapable de pleurer.
Voilà un personnage qui est posé. On imagine qu'avec ce flashback, on a tout de suite situé les raisons du comportement de ce personnage et son rapport aux autres. Pourquoi... Première chose, Jean-Laurent Del Socorro, vous êtes-vous intéressé à l'histoire? Vous n'avez pas au départ, j'ai l'impression, de formation historique, vous n'avez pas fait d'études d'histoire, vous n'avez pas, oh, peut-être que je me trompe, mais vous me le direz, vous n'êtes pas professeur d'histoire. Qu'est-ce qui fait chez vous cette passion pour l'histoire et qu'est-ce qui fait que, quand il est venu le moment d'écrire votre premier roman, cette envie de publier, de transmettre au lecteur, vous vous êtes emparé, pour votre fantaisie, d'un grand sujet historique?
Il y a un peu une double raison. La première, je pense que d'abord, c'est parce que j'ai une curiosité et scientifique et historique sur plein de choses. C'est un intérêt personnel. Et en fait, quand je réfléchissais à écrire un premier roman, très vite, je me suis dit, je veux une matière historique. Parce que l'histoire, c'est une façon, pour moi, détournée en fait, de poser des problématiques qui sont aujourd'hui très contemporaines. Les guerres de religion, ça met en avant les religions. Il y a plein d'échos sur nos sociétés, sur la société d'aujourd'hui, qui permettent d'avoir le recul historique tout en abordant des problèmes de société d'aujourd'hui. Ça, c'était le premier point. Après, je dis aussi en plaisantant, parce que je suis un feignant, quand on écrit un roman, c'est une histoire, c'est un décor et c'est des personnages. Le décor, c'est notre monde à nous historique, donc je n'ai pas à l'inventer. L'histoire, je prends un fait historique auquel je ne touche pas, donc j'ai l'histoire. Finalement, il me reste que les personnages à faire, donc c'est plus rapide. Bien sûr, c'est plus compliqué que ça, mais c'était aussi mon approche. Je suis quelqu'un qui écrit d'abord sur les personnages et leur création, donc c'est peut-être pour ça en fait qu'il y a toute une réflexion sur d'où ils viennent, quel est leur passé, quelles sont leurs motivations, qui est très présente en fait sur mes écrits. Et puis une fascination quand même pour l'histoire qui est une magnifique leçon en disant que parfois on a la mémoire très courte et que malheureusement des choses reviennent alors qu'elles ont été déjà arrivées trop de fois dans notre passé.
Je regarde votre quatrième de couverture qui présente rapidement, elle est bien d'ailleurs, les personnages. Un chevalier usé et reconverti, on vient de le reconnaître dans le passage qui est lu tout à l'heure. Une vieille femme qui dirige la guilde des assassins, le premier passage lu, vous êtes déjà en place. La patronne, ancienne mercenaire qui s'essaye à un métier sans armes, la patronne de ce bar, de cet hôtel en fait. La roue de la fortune, moitié estaminée, moitié hôtel. Et puis un couple de magiciens amoureux et en fuite. Ah! Même à cette époque, il y avait des gays. Jean-Laurent Del Socorro, Vous m'en direz tant.
Le... Alors là, c'est une très grande revendication que j'ai à travers tous mes textes, hein, que ce soit sur la liberté sexuelle, la couleur de peau, évidemment des personnages féminins très présents en avant. Je voulais, en fait... je trouve, enfin voilà, alors, c'est avec toute l'humilité que je peux mettre dedans, je trouvais moi en tant que lecteur parfois il manquait de personnages ou féminins ou des personnages noirs ou arabes ou des personnages homosexuels qui existent pour ce qu'ils sont et qui ne soient pas ce soit des éléments saillants de leur identité. Là j'ai des gens qui sont amoureux, point. Il se trouve que ce sont deux hommes. Voilà, c'est comme ça. Alors pour eux, c'est pas de chance, parce qu'en plus qu'ils sont dans les ordres catholiques, effectivement, c'est pas le meilleur endroit effectivement pour s'épanouir au XVIe siècle pendant les guerres de religion. Mais voilà, ils sont amoureux et c'est pas un élément. Ils vivent leur amour. Point. C'est des gens qui sont amoureux. De la même façon, Axel est une mercenaire. Il se trouve qu'elle est noire. Ça pose pas de problème alors à la compagnie de mercenaires. Elle devient capitaine parce qu'elle est compétente. Il n'y a pas d'ambiguïté quand il décide, voilà, quand son père meurt et que finalement on dit, ben, ce sera toi qui prends la relève. C'est d'abord pour sa compétence et c'est pas par autre chose en fait.
C'est pas un quota, c'est son talent. Les choses sont naturelles parfois.
Tout à fait, mais ce serait vraiment important.
Ce serait bien que ce soit toujours comme ça. Beau livre, très beau roman et d'ailleurs un prix. Vous avez décroché un prix dès ce premier roman. Dites-moi.
Oui, j'ai eu le prix El Paquin Buonnet du meilleur roman de fantasy francophone, vraiment qui m'a mis en avant. Et j'en profite pour amorcer, bon, pour remercier ceux qui m'ont remis ce prix. Je voudrais remercier quand même assez largement aussi. On ne juge pas assez de l'importance des médias, journalistes, de la blogosphère et bien évidemment des festivals. Et des libraires en fait qui à la sortie du premier roman ont eu la gentillesse, l'amitié ou parfois le professionnalisme de m'inviter alors que j'étais pas connu. C'est pas évident toujours pour un petit festival ou un grand festival d'inviter quelqu'un parce que voilà effectivement le public veut aussi des auteurs de renom. Donc un énorme merci parce que sans cette blogosphère, sans ces festivals, sans ces libraires qui quand j'étais inconnu m'ont mis en avant, je suis pas sûr que je sois là aujourd'hui, mais réellement. Donc un énorme merci pour ça.
Merci Jean-Laurent, mais c'est une évidence. On voit bien qu'avec ce coup de cœur qui présente des nouveaux romanciers, vous avez vu peut-être certains d'entre vous hier le café premier roman nouveau talent. C'est-à-dire que le festival Imaginal, dès le début, c'est dans son ADN, peut-être parce que simplement j'aime ça, que la ville aussi trouve normal de soutenir la jeune création, qu'on met en avant les talents français et internationaux, on soutient les auteurs sur des carrières au long cours, mais évidemment... on aide aussi à la mise en valeur, au démarrage et à faire connaître la nouvelle génération d'écrivains, simplement parce que c'est aussi par ce renouvellement qu'un genre vit et se développe, et c'est bon parfois de le rappeler. Premier roman, donc si vous ne l'avez pas encore lu, vous pouvez évidemment le trouver dans la très jolie collection des éditions ActuSF, une bonne maison, partenaire du festival. Et par ailleurs, il y a parfois des bourses un petit peu plus restreintes, y compris pour les jeunes lecteurs. Vous avez le même livre repris en poche chez J'ai lu. Donc deux éditions pour un même talent. On va ensuite découvrir, Jean-Laurent, votre second roman. Boudica qui a été sélectionné par le comité de lecture du prix Imaginal des lycéens. Donc vous avez été dans la sélection des 5 livres repérés par les professeurs cette année sur la bonne vingtaine que je leur ai soumis, donc c'est bon signe. Votre livre a encore passé un test de sélection entre guillemets, a été repéré, il a plu à pas mal de lecteurs. Je n'en dirai pas plus, que je suis tenu au secret des délibérations de nos jeunes jurés, mais je tenais à vous dire publiquement que le prix a été accordé à une de vos collègues, mais que votre livre a eu le suffrage de beaucoup de lycéens, je tenais à le dire. Et par ailleurs, vous avez été aussi sélectionné par le premier prix Imaginal des bibliothécaires, et là, jackpot, vous avez obtenu ce premier prix des bibliothécaires décerné par 75 bibliothécaires de France pour l'essentiel, de 30 départements, et puis un à Tokyo, Alliance française qu'on salue à cette occasion, qui fait briller notre culture dans le monde, et quatre alliances françaises, quatre bibliothèques en Chine. Un prix qui n'est pas simplement régional et même national, mais qui d'emblée commence à avoir une dimension internationale, et on en est ravis. Donc bienvenue pour ce prix imaginal des bibliothécaires, en précisant qu'en plus il y a une petite bourse modeste, mais qui est toujours agréable et qui permet aux auteurs qui parfois ont du mal à boucler leur fin de mois. Je vous renvoie demain à notre table ronde qui sera débattue, animée, passionnée, mais aussi j'espère réfléchie, pour savoir comment avec les écrivains nous avançons ensemble et bientôt définitivement vers la rémunération des interventions en festival, malgré évidemment les évolutions que ça nécessite et le coût. Être écrivain, c'est une passion, mais c'est aussi pour un certain nombre, à temps partiel ou à temps plein, un métier, là aussi il est bon de le dire, en présence d'un jeune auteur qui a décidé de devenir un auteur professionnel, qui vit déjà de l'écriture à temps plein. Je n'ai pas dit de sa plume, mais de l'écriture à temps plein, et qui, bien évidemment, souhaiterait, j'imagine, à terme, ne vivre que de la publication de ses romans, de ses nouvelles, de ses publications. En tout cas, c'est une question que je lui poserai à la fin de notre entretien. Rentrons là aussi dans l'univers de Boudica. Alors là, oui, Jean-Laurent, micro.
Juste un tout petit mot. Oui, donc merci pour le prix. Je voudrais dire que Boudica a eu un autre prix qui ne me concerne pas directement, mais qui est très important.
Absolument.
Le prix de l'illustration. Donc je ne remercierai jamais donc Eric Holstein, qui est le directeur artistique des éditions ActuSF. Je lui ai fait confiance et j'ai eu raison pour la direction. Et Yana Moskaluk pour la magnifique illustration quand même qu'elle a réalisée. Voilà, merci à elle. Elle l'a grandement mérité.
Précision, c'est donc le prix imaginal décerné par notre jury. C'est une auteure, une illustratrice russe. Là aussi, c'est la première fois que ce prix est décerné à une illustratrice venue de Russie. Il fallait le signaler. Donc, logiquement, je vais m'y intéresser de plus près. J'avais déjà remarqué à la sortie du livre, j'en avais parlé d'ailleurs avec Jean-Laurent, cette magnifique couverture. Et personnellement, quand j'avais vu que le jury débattait, je ne suis pas membre du jury, donc je suis très à l'aise pour le dire, j'ai vu qu'ils étaient dans la présélection, je me suis dit j'espère qu'ils vont la choisir, même s'il y avait de très beaux livres face à elle. C'était une magnifique illustration avec une vraie originalité qui rend hommage au personnage, je trouve, de superbe façon. Boudica, comme toujours, lors de ce café littéraire, on va écouter notre amie lectrice, et non plus cette fois-ci auteur, qui va nous faire écouter la voix de son collègue Jean-Laurent Del Socorro, Boudica.
Alors on commence par la voix de Tacite, en fait, qui inaugure le roman. Boadicée, montée sur un char, ayant devant elle ses deux filles, parcourait l'une après l'autre ses nations rassemblées, en protestant que, tout accoutumés qu'étaient les Bretons à marcher à l'ennemi conduit par leur reine, elle ne venait pas, fière de ses nobles aïeux, réclamait son royaume et ses richesses. Elle venait, comme une simple femme, venger sa liberté ravie. Qu'on réfléchit avec elle au nombre des combattants et aux causes de la guerre, on verrait qu'il fallait vaincre en ce lieu ou bien y périr. Femme, c'était là sa résolution. Les hommes pouvaient choisir la vie et l'esclavage. Tacitus.
Extrait d'un extrait réel, hein. C'était un extrait historique, Tacite, hein, pour ceux qui ne connaissent pas le nom latin de ce grand historien. Alors, c'est un historien, mais n'oublions pas que, même si certains d'aujourd'hui ont encore tendance à être dans cette lignée-là, l'historien de l'époque est quand même beaucoup un propagandiste. On en trouve aussi, il y a malheureusement aujourd'hui, qui ne font pas l'effort du recul, mais qui sont avant tout des idéologues avant d'être des historiens, qui torturent les faits pour mieux faire passer leurs idées, quelles qu'elles soient d'ailleurs. Hein, on trouve ces idéologues dans tous les camps. Et Tacite avait le petit défaut de vouloir plaire parfois ou de dénoncer ses ennemis politiques. Et donc son regard est évidemment un regard qui est celui d'un Romain et d'un propagandiste autant qu'un historien. Sauf que là, quand même, ce passage est intéressant. Parce que c'est presque l'hommage du vice à la vertu. Quelque part, il y a quand même une sorte d'admiration de Tacite pour une ennemie de Rome. Ça n'est pas si fréquent sous sa plume. Jean-Laurent Del Socorro, cette reine révoltée contre l'Empire romain au 1er siècle, au Royaume-Uni, ce qui deviendra plus tard le Royaume-Uni. Vous avez vu, Breton. Quand on parle de Breton, la Bretagne, c'est les Celtes et c'est aussi bien la partie bretonne de ce qui est aujourd'hui la France que de la partie de ce qui est aujourd'hui le Royaume-Uni. Hein. C'est l'universel, en quelque sorte, qu'on appelle breton, et surtout la partie, encore une fois, de ce qui est aujourd'hui le Royaume-Uni. Qu'est-ce qui vous a passionné, Jean-Laurent Del Socorro, après le XVIe siècle révolté autour de Marseille, dans cette épopée particulière, sur laquelle on y reviendra, il y a peu de documents, l'épopée de Boudica, comme ça que nous on le traduit. Qu'est-ce qui vous a fasciné dans cette révolte d'une reine celte au 1er siècle après Jésus-Christ ?
Ça a été la surprise de tomber sur cette histoire au détour d'un article en fait historique. J'étais pas parti du tout pour écrire ce roman. J'étais parti pour écrire le roman que j'écris actuellement. Et je tombe sur cet article. Je vois une reine celte, résistance à Rome. Et puis, donc en Angleterre, je me dis mais incroyable qu'on n'entend pas parler. J'essaie de gratter. Il y a un peu, alors très peu de sources écrites, mais il y a un peu d'informations historiques ou via des articles ou des résumés, et finalement peu de romanesque. Et je vois tout d'un coup, effectivement, chez les Anglais, elle a sa statue à Londres, c'est un symbole de révolte. Dans le monde anglo-saxon, plus largement, même aux États-Unis, elle a une forme de référence sur plein de thématiques. Et de l'Angleterre à nous en France, finalement, on la connaît très très peu. Il y a eu un peu un revival sous le nom de Boadicée à un moment, voilà, où on l'a un peu idolâtré sous une autre forme. Mais sinon, aujourd'hui, elle est très peu connue. Et en fait, j'ai voulu, alors là aussi très modestement, me dire quand même, c'est incroyable. Enfin, c'est une personnalité féminine ultra forte, politique, diplomatique. Elle est inscrite dans l'histoire de Rome, comme vous dites. C'est pas rien en fait d'être dans l'histoire romaine. C'est que vraiment il y a eu quelque chose et on la connaît pas. Donc c'était une façon de lui rendre hommage en disant ben je vais faire un roman sur elle parce que sa vie est fascinante, parce qu'elle le mérite, et au moins que le livre plaise ou plaise moins, au moins on découvre une personnalité historique féminine qui mérite d'être réhabilité.
Qu'est-ce qui fait quelque part que, alors que Rome est quand même une incroyable puissance à l'époque, c'est largement dans le monde antique aussi puissant, sans doute plus puissant que les États-Unis d'Amérique aujourd'hui, hein, clairement. L'Empire romain, c'est quelque chose d'inouï qui va défaire tous ses opposants, qui va construire une civilisation puissante et dominante et intégrer des tas de peuples différents pendant des siècles et des siècles sur tout le bassin méditerranéen et bien au-delà. Donc c'est quand même, par rapport aux moyens techniques de communication et d'encadrement politique de l'époque, un empire inégalé. Et je pense que c'est quand même quelque chose qu'on peut signaler. Et pourtant, quelquefois, pas beaucoup, mais quelquefois, dans quelques pays, des révoltes, non pas qui menacent Rome, la révolte de Boudica ne menace pas Rome. En revanche, elle menace clairement, et ça s'est joué à peu, la domination romaine sur la Bretagne, c'est-à-dire sur le Royaume-Uni de l'époque, ce qui n'est pas encore le Royaume-Uni. Qu'est-ce qui fait, d'après ce que vous avez vu dans vos recherches historiques, Jean-Laurent Del Socorro, que cette révolte d'abord prend, et ensuite qu'est-ce qui fait qu'elle peut être menée par une femme en une époque quand même encore plus machiste que la nôtre ?
Alors c'est ça qui est fascinant. Il y a... entre guillemets, moi, autant j'avais un peu de connaissances sur les guerres de religion et cette période, autant sur le monde celtique, autant dire que j'en avais aucune. Donc j'ai été accompagné par quelqu'un qui a fait un archéologue d'époque qui m'a accompagné, et notamment sur la première version du manuscrit, il m'a beaucoup tapé sur les doigts parce que malgré mon début de recherche, j'étais quand même très à côté d'une réalité. Et il y a une réalité, en fait, que je n'avais pas vu venir, la première étant, dans le monde celtique, même si je force un peu le trait dans le roman, il y avait quand même une place de la femme qui était largement plus égalitaire qu'elle ne l'était dans le modèle romain, qui était quand même très, très patriarcal. Donc tout d'un coup, je suis fasciné. On avait, dans le monde icène, effectivement, donc la peuplade qui était là, la royauté, effectivement, pouvait a priori se passer par les hommes comme par les femmes, qui ne va pas être le cas du tout par la suite sur d'autres modèles au Moyen-Âge, que c'était les femmes qui formaient, et ça on en est sûr chez les Icènes, les guerriers, donc c'était des, voilà, c'est les jeunes enfants sont entraînés par les mères, voilà que au moment de signer un traité, dans les textes, on voit que les reines sont présentes et valident aussi la paix avec les Romains, disons la soumission de. Donc il y a vraiment quelque chose de fascinant par rapport à ça. Donc effectivement, après, pour la question pourquoi peuvent-ils suivre une femme, pour les Celtes, du moment qu'il y a une légitimité et qu'ils reconnaissent la légitimité de la personne qui les dirige, que ce soit un homme ou une femme, eux, ils ne s'étaient pas posé la question. Et c'est d'autant plus étonnant après de pourquoi cette révolte, parce qu'elle, quand même, elle était tout en haut, elle était reine, elle était romanisée, elle parlait romain, a priori. Elle était très bien placée. Il s'est trouvé, entre guillemets, d'un détail de l'histoire, il se trouve qu'elle a été humiliée par un des gouverneurs de l'île de façon très violente, et ça va mettre le feu aux poudres. Elle va décider de prendre les armes, et là, tout d'un coup, tous les petits clans ou les gens qui, eux, ne profitaient pas de la présence romaine se réunissent. Et là, on se rend compte qu'il y a beaucoup de monde, et là, les Romains se rendent compte qu'ils ont fait une grosse, grosse, grosse bêtise. Et effectivement, il s'en est fallu de peu que ce soit définitif.
Londres a été quand même rasée, tous ses habitants romanisés, romains, massacrés, hein, clairement.
Oui, oui. Mais
il y a les traces encore archéologiques qu'on trouve de flammes et tout. Quand on creuse, on a trouvé, c'est fascinant, c'est-à-dire qu'on voit le massacre de Rome inscrit dans le territoire.
Alors, tout à fait. Alors, c'était
de Londres, pardon.
De Londres. Alors, pour la petite histoire, c'était une petite colonie encore à l'époque, mais il y avait quand même du monde et elle était déjà fortifiée, même si c'était petit. Effectivement, si vous voyez des émissions sur Boudica, ils font toujours un plaisir d'aller dans des vieilles caves du centre de Londres et on voit une couche de cendres. En fait, c'est la couche Boudica, elle s'appelle vraiment comme ça. Alors, il y a un nom latin sur la couche, mais voilà, c'est la couche Boudica, elle l'a mis à cendre. Et pour la petite histoire, la première ville, qui était une grosse ville dont j'ai oublié le nom, qu'elle a rasée, c'était la plus grosse cité de la ville. Et les Romains étaient tellement sûrs que les Celtes ne se révolteraient jamais, ils se sont dit on va abattre les murailles, hein, ça sert à rien. Et c'était la ville où prenaient retraite les anciens officiers et soldats romains. Donc ils se disaient, on fait une belle retraite dans cette ville, tout ça. Et ça a été évidemment la première ville, pas de chance, elle est juste à côté du royaume Icène. Et ça a été un massacre jusqu'au dernier, avec une résistance un peu inattendue jusqu'au temple, dans le temple, parce que quand même c'était d'anciens mercenaires et des soldats romains qui étaient à l'intérieur. Mais voilà, Rome était tellement persuadée que ça n'arriverait jamais, qu'ils avaient mis à bas les défenses de la ville et qu'il n'y avait pratiquement pas de garde. Erreur.
C'est une leçon intéressante pour l'histoire. Quand on veut que ça se passe bien, il faut être poli avec les gens quand même, bien les traiter. C'est une bonne recommandation finalement, une bonne leçon. Sinon, vous pouvez finir un peu brutalement. Je pense qu'un certain nombre de colonialistes l'ont appris dans l'histoire, y compris notre pays, je crois.
Malheureusement, oui, tout à fait.
Mieux vaut prévenir que guérir. Mieux vaut dialoguer que s'affronter, du moins quand on peut. Et quand on peut trouver des compromis intelligents, c'est aussi peut-être la leçon de l'histoire. Même si Boudica va être, c'est pas un secret puisque vous regardez sur Wikipédia, Boudica évidemment est défaite et mourra, mais sa révolte quand même à la fois est une fierté nationale, est une référence pour les Britanniques, et quelque part ça nous interroge sur la fragilité des empires, parce que même les plus grandes puissances peuvent être mis en difficulté. On a connu dans les années 60 et 70 l'Empire américain qui a quand même été confronté à la guerre du Vietnam, hein, qui continue à la faire réfléchir, d'où d'ailleurs peut-être la revanche de Trump, America First, le slogan qui nous... Comme quoi, et c'est ce qu'on disait d'ailleurs, j'en ai parlé il y a quelques années, et le maire d'Épinal, Michel Henrich, avait dans une interview qu'il avait accordée, ce qui prouve que sans être au départ un spécialiste de l'imaginaire, il en a vite compris un peu tout l'intérêt et tout le sel, où il disait « Ces gens, ces écrivains nous entraînent dans des mondes mystérieux, différents, très loin des réalités, mais parfois, par un retour habile, ils nous amènent subtilement à nous interroger sur les réalités d'aujourd'hui. » Il le disait encore mieux que ça. C'était ça l'idée. Et je trouve que c'est très vrai. Est-ce que c'est pas quelque part ce que font les romanciers quand ils s'emparent de Jean-Laurent Del Socorro, de la matière historique dans un roman de fantasy ou de science-fiction, peu importe?
Complètement, complètement. On est, disons que pour ceux qui utilisent la matière historique, c'est une évidence. On ne s'inscrit pas dans un récit historique si on n'a pas une revendication, d'avoir un écho contemporain sur les thématiques ou sur les problématiques qu'on veut mettre en exergue. Aborder la matière de l'histoire, que ce soit très historique comme je le fais ou de façon plus uchronique, c'est aussi porter une réflexion sur notre passé et indirectement sur notre société et sur aujourd'hui. C'est une évidence pour moi.
On va donc lire le passage suivant, Silène. On va continuer à progresser dans l'histoire de Boudica.
Atrébat, Belgas, Dobnes, Catuvelone, Brigante, Dunome, Régance, Cantias, Durotrige, Trinovante et Isène. 11 clans qui s'incarnent en autant de reines et de rois qui arrivent peu à peu sur nos terres. La veille de la rencontre, mon père m'emmène sur les remparts de la ville. Sais-tu où nous sommes, Boudica ? Quel Isène ignore l'histoire de la colline qui marque l'entrée de notre territoire ? Gog Magog, le tombeau des deux géants terrassés par la déesse Epona. Et sais-tu pourquoi j'ai choisi d'établir notre nouvelle capitale ici, plutôt qu'à Vanta ? Je hausse les épaules sans répondre. Mon père s'en irrite instantanément. Cet endroit est un lieu de légende, Boudica. Ici, une de nos déesses a triomphé, alors que rien ne laissait présager de sa victoire. Comprends-tu ? Nous devons rappeler aux autres clans que les Isènes sont glorieux depuis toujours. Nous ne sommes pas faibles. Je ne suis pas sûre de savoir qui il cherche à convaincre quand il enchaîne. Tu ne seras pas qu'une future reine, tu seras un symbole pour tout le peuple Isène, celui d'un clan insoumis. J'ai commencé à tenir ma première lance il y a quelques jours à peine. Je n'ai terrassé aucun géant. Comment veut-il que j'incarne quoi que ce soit ? Père, je ne comprends pas. Il se retourne brusquement vers moi pour me saisir par les épaules. Ses yeux me traversent, loin, très loin. Son étreinte me fait mal. Je n'ose pas bouger. Un jour, tu régneras. Une reine ne doit pas faillir devant son peuple. Jamais. Alors, devant les autres clans, il faudra te montrer forte. Comme Epona sur son chariot, ou comme ma mère, cette reine que les dieux ont échangée contre une gamine. Je ferai tout ce que tu veux, père. Mais lâche-moi, tu me fais mal. Après quelques secondes d'hésitation, sa prise se desserre enfin. Ses yeux sont là, sur moi. Et soudain, sans prévenir, il m'enlace. Ma fille. Son étreinte efface en un instant le peu de reine qui avait commencé à germer en moi.
L'enfance d'une reine. Comment on forme les futurs dirigeants. On va aussi avancer dans le roman à partir peut-être d'une autre préoccupation qui est chez... Alors, on a bien vu chez Jean-Laurent de Secoro, il y a l'histoire, toute cette trame, toute cette puissance, l'histoire qui percute aussi les destinées individuelles, qui les emportent. Et c'est tout le rapport qu'on peut avoir avec comment l'histoire collective peut impacter nos propres vies, surtout dans des périodes de crise. Et puis, dans ce roman... On a aussi, comme dans l'autre roman, comme dans d'autres nouvelles, comme dans le prochain roman, j'en suis sûr, un rapport au personnage. J'en ai un peu déjà dit un mot au début avec le choix des personnages. C'est pas simplement des silhouettes, même quand ce sont des romans relativement courts, parce qu'une des marques de fabrique, je vais pas dire que ce sera éternellement ça, mais de Jean-Laurent, est d'écrire des romans relativement courts, qui sont pas bavards, qui sont pas hypertrophiés. Quand les choses sont faites, les choses sont dites, eh bien le roman s'achève. Il y a quand même une attention portée à l'humain, à l'individuel, à la vie intime, y compris quand il s'agit de celle de dirigeant. Et c'est ça dont j'aimerais que vous nous parliez, Jean-Laurent, avant qu'on nous lise un dernier extrait. En tout cas, si Hélène nous lira un dernier extrait, je me réserverai moi-même l'ultime, qui sera non plus un roman cette fois-ci, mais une nouvelle. C'est quoi votre façon de présenter les personnages, et parfois par flashback, ou dans le cours de l'histoire, ou d'un dialogue, rappeler ce qu'a pu être l'enfance d'une reine, rappeler ce qu'est aussi le rapport intime de quelqu'un qui a des fonctions dirigeantes et qui pourtant est aussi parfois une mère ou un père, un mari, où on avait un, puisque là le mari n'est plus là. Voilà, comment se construit dans la grande histoire et dans les actes publics d'un personnage, néanmoins, tout ce qui sont les fractures et les histoires de l'intime.
Par rapport au personnage de Boudica, par exemple, y avait deux grandes lignes. La première, j'ai la fin de l'histoire. Donc j'ai effectivement un personnage historique. Qu'est-ce que j'en sais ? Ça va être quelqu'un qui est assez respecté, qui a un pouvoir tel et un placement qu'elle va pouvoir rallier des gens. Donc c'est une personnalité très forte qui, à un moment... va se trouver au centre de l'attention de tout. Mais avant, elle était qui ? Et comment elle a gagné cette position ? Et ça, on ne le sait pas. Les textes ne nous le disent pas. Donc, c'est, on tire à l'inverse du fil. D'où elle vient? D'où vient ce respect? Et on va poser des hypothèses. Et le deuxième point, moi, je n'écris pas des héros. J'écris pas des héros, j'écris des gens. Même si elle est reine, c'est quelqu'un qui est né, qui a grandi, qui a des, ses bons côtés, ses mauvais côtés. On me dit souvent, Boudica, parfois, elle a quand même des aspects de son caractère qui sont désagréables. Mais c'est vrai, c'est une vraie personne. Enfin, j'essaie de lui créer une vie de vraie personne. Elle a des envies de femme, des envies de vie personnelle. En fait, je veux parler de vous et moi, et le Boudica en est même là. J'ouvre le roman avec ça. C'est, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des destins que l'on choisit d'incarner. C'est-à-dire qu'à un moment, quelqu'un qui finalement, c'est pas une héros. Enfin oui, elle n'est pas désignée par les dieux. Il n'y a pas un vieux magicien qui arrive pour lui dire en fait tu es l'élu. Juste à un moment, elle se trouve que ce qu'elle est. Au moment où elle est, va la désigner, il va faire que 20 siècles plus tard, on s'en souviendra encore. Mais au départ, c'est pas écrit. Et donc voilà, j'ai besoin de parler de gens qui ont des envies, des échecs, des amours, une personne qui pourrait vraiment être vous et moi. Fût-elle reine, c'est d'abord une personne.
Eh bien, justement, peut-être avec Silène, découvrons cette personne.
Nous entrons enfin chez nous, à l'abri de ces boudicas, chuchotés comme des prières. Je n'ai rien d'une déesse. Je suis juste fatiguée dans mon âme et dans mon corps de revenir ici pour mettre définitivement fin à 3 années de ma vie, comme l'on referme un cercle sur son point de départ. Je me sens prisonnière d'une destinée, jument fougueuse dont je n'ai pas su maîtriser les rênes. J'arrive dans le hall où de trop nombreux servants nous attendent. Ils ne font que raviver cette sensation d'étouffement qui m'étreint depuis mon retour. 2 enfants s'approchent vers moi. Il me faut quelques secondes pour reconnaître Vindoria et Defixia. Mes filles, mes reines! Je m'accroupis pour accueillir ma cadette qui se jette dans mes bras. Sa sœur aînée reste immobile tandis qu'elle prononce « Mère, nous sommes heureuses de votre retour. Vous nous avez manqué. » Je comprends à la dureté de son regard que Defixia a grandi sans moi, trop vite. Trop seule. Si nous partageons, elle et moi, peu de traits en commun, je me reconnais plus sûrement dans mon aîné que dans Vindoria, qui a hérité de la parole bavarde de son père. Je suis comblée de vous retrouver, toutes les deux. Une main de Pratsutagos se pose sur mon épaule. De l'autre, il prend celle de Defixia. Je me relève pour faire face à mon époux, dont l'expression me prouve que nous partageons la même vérité en cet instant. Nous voilà à nouveau réunis, alors qu'il n'y a jamais eu autant de choses qui nous séparent. J'attends que nous retrouvions notre intimité avec Pratsutagos pour évoquer mes 3 ans de campagne militaire aux côtés de Karatakos. Pour la première fois, je me découvre les mots faciles. Pratsutagos m'écoute sans m'interrompre, cessant tout à faire pour passer du temps avec moi. Il me masse lui-même mes muscles douloureux. Je ne sais pas si je l'aime, mais je me redécouvre une affection pour celui qui est à la fois mon roi, mon ami et mon amant. Si sa patience et sa tendresse me touchent, c'est sans doute parce que j'en suis moi-même démunie.
Là aussi, par rapport au cliché sexiste habituel entre les hommes et les femmes, la force et la faiblesse, la puissance et la douceur, enfin, tous ces clichés à 100 balles qu'on a subis et qu'on subit encore trop souvent, là, on est complètement à contrario, quelque part, dans cette scène.
Alors la scène est particulièrement bien choisie. C'est drôle hein, de l'entendre, en fait, ça me repositionne, effectivement... par rapport à ça. Oui, je voulais remettre en exergue quelque chose d'important, pareil, sur des éléments que j'avais trouvés. Dans certains clans celtes, on pouvait avoir... on se mariait, hein, on avait des alliances donc, de rois et de reines, mais c'est ce qui arrive à Pratsutagos, donc, qui est le mari de Boudica. Il se marie avec Boudica, mais il a auparavant une femme. Donc en fait, il y a le mariage royal, voilà, pour principe d'alliance, mais une vie privée où il a des enfants, et ainsi de suite. Et c'est pareil pour Boudica, qui a une amante de son côté, qui est connue, mais voilà, c'est affaire de vie privée. Et par rapport à ça, ça permettait de soulever 2 points intéressants, à la fois la réflexion sur La réflexion du couple, effectivement, et la réflexion de ces symboles-là. C'est-à-dire, je voulais pas non plus. Alors, c'est très compliqué hein, pour un homme d'écrire un personnage féminin, mais vraiment très très compliqué. Surtout que là, j'aborde, hormis la sexualité, le principe de couple, j'aborde effectivement les relations mère-fille. Quand on est un homme, c'est le rapport est différent, l'enfantement, ainsi de suite. Mais je voulais aussi aborder quelque chose qui, à mon sens, était fort. C'est effectivement la force, la capacité militaire, c'est plus du côté de Boudicca que de Pratsutagos, qui reste, lui, extrêmement romanisé, qui est plus proche d'un héritier noble, il agit comme un sénateur que comme un guerrier militaire, même s'il a sans doute des compétences lui aussi. C'est très important, parce que c'est, je pense qu'à la fois mettre en avant ça, et à la fois cette réflexion de dire... Là, pareil, encore une fois, en toute modestie, ne pas jouer sur les stéréotypes habituels, parfois, qu'on retrouve un peu trop souvent en littérature. Oui, c'est une personnalité, une reine qui est politique, qui aussi peut prendre les armes. Et quand elle doit défendre, ben, c'est plutôt elle que son époux Caratacos qui prend les armes.
On approche de bientôt déjà, on passera encore du temps, mais voilà, c'est la règle du jeu des imaginales. Je l'évolue comme telle. Café littéraire, c'est 50-55 minutes maximum parce que il faut vous frustrer un peu. Si on vous dit tout, vous n'allez pas acheter les livres. Alors là, vous allez besoin d'en savoir plus. Donc dans les minutes qui suivent, vous allez vous précipiter sous la bulle du livre. Il est tout au fond. Vous le verrez, Jean-Laurent, et vous lui achèterez un, deux livres selon. Et puis si vous avez déjà les deux livres, eh bien, on va lire un extrait. Créature, parce qu'il est aussi novelliste. Et même si c'est avant tout un écrivain de fantasy, c'est aussi un écrivain potentiellement de fantastique, on en dira un mot sur ses projets, et un écrivain de science-fiction, l'écrivain total, Jean-Laurent Desecoro. Petit extrait, La machine différente, c'est la nouvelle qu'il m'a proposée, mais on a dit un mot avant de m'envoyer le texte, pour l'anthologie 2018 des Imaginales, Créatures. Vous allez voir, c'est une créature qui n'est pas une créature, c'est pas un dragon, c'est pas un elfe, vous allez voir. Je suis né de ces amours trop rares entre la science et la poésie. Lord Byron, mon grand-père, imaginait-il une descendante telle que moi quand il s'adonnait à son jeu littéraire sur le lac Léman avec Mary Shelley? Cette dernière aurait-elle conçu son Frankenstein différemment si elle avait connu mon histoire avant d'écrire la sienne? Son monstre aurait alors été de métal, non de chair, pour mieux me ressembler. Un moulin de 12 colonnes de 4 mètres de haut composé de 120 roues chacune. Une machine analytique ou ANA pour vous servir. Je me souviens de tout, même de mon premier instant. Je m'éveille dans un hangar de la campagne londonienne sans que mon père ne s'en rende compte. Charles Babbage est trop absorbé à vérifier les réglages et les constantes de ma mise en service pour s'apercevoir que ce n'est pas à une simple machine qu'il vient de donner la vie. Je suis aveugle mais bien présente, à cerner ce monde dont je perçois d'abord le bruit de mes propres rouages et puis soudain une voix. « Charles ?» Ada Lovelace, ma mère. « Charles ?» Un mouvement, mon père se retourne vers elle. « Qu'y a-t-il, Ada ? J'ai une sensation étrange. »« Vous inquiétez pour rien, ma chère. Notre nouvelle machine à différence fonctionne à merveille. »« Charles m'a conçu, mais c'est Ada qui a accouché de mon esprit codé de 0 et de 1. »« Je vous assure qu'il se passe quelque chose, Charles. » Un bruissement, la robe de ma mère glisse sur le sol nu du hangar. La linotype, reliée à moi par un câble, tel un cordon ombilical, se met en marche. « Ma chère, que faites-vous ? Un test ?» Le bruit feutré de la carte perforée qui glisse en moi. Ma mère me parle. Une des matrices de plomb de la linotype quitte son magasin pour imprimer la réponse à la question qu'Ada vient de me poser. Quelles sont les 35 premières décimales de pi ? 3, 141, 592, 623, 189, etc., etc. Mon père jubile. Ça marche, nous avons réussi ! Ada oublie son inquiétude. Je ne le vois pas, bien entendu, mais Charles se retient au dernier instant de poser sa main sur l'épaule de ma mère. Il n'ose pas. Même ici, sans personne pour le voir, le poids d'une société dont je ne connais pas encore l'existence le retient. Le monde n'est pas encore prêt à accepter certaines différences. Je veux leur faire comprendre que je suis toujours là, qu'ils ne doivent pas m'ignorer. Je réactive la linotype. Les caractères de plomb se remettent à marteler la feuille. Mes parents sursautent. Ada, est-ce vous qui... Non, un faux contact sans doute. Elle ne termine pas sa phrase. Le silence est tel que je crois un instant qu'ils ont disparu de la salle. Ils lisent la question que je viens à mon tour de leur poser. Premier mot d'un enfant qui a grandi trop vite. Qui suis-je ? Qui est-ce qui pose cette question à ses parents, Jean-Laurent Del Socorro.
Alors, c'est Anna, donc de Machine Analytique, qui est pareil tiré d'un fait historique vrai. Donc, Charles Babbage et Ada Lovelace ont existé. Et ils ont été à l'origine de l'ancêtre de l'ordinateur, voilà, au 19e siècle, avec la machine analytique. Et le titre de la nouvelle, La machine différente, est d'ailleurs aussi un hommage et un clin d'œil à La machine à différence de William Gibson
et
Bruce Sterling, qui eux-mêmes ont imaginé. Et si Charles Babbage et Ada Lovelace avaient réellement réussi à créer un siècle plus tôt l'informatique. Et donc Anna, c'est cette machine analytique qui finalement a une intelligence artificielle. Et donc du coup, elle s'éveille à la vie, c'est une machine qui a deux parents. Et la nouvelle, d'ailleurs je la dédie à Ada Lovelace, c'est aussi rappeler qu'Ada Lovelace, c'est le premier programme informatique de l'histoire, c'est une femme, et ça fait pas si longtemps que ça, même si maintenant dans le milieu scientifique c'est établi, qu'on lui reconnaît que c'est quand même bien elle qui l'a écrit, pas Charles Babbage.
Et on notera d'ailleurs que celui qui, quelques dizaines d'années plus tard, puisque c'est avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, aura cassé les codes de la machine nazie à coder Enigma, et lui sera un homosexuel, une femme, un homosexuel, qui seront parmi les premiers à faire avancer ce qui est perçu comme une science masculine, typique, machiste. Vous voyez, comme quoi le regard sur l'histoire, parfois, nous permet de nous dire que la richesse est multiple, que les minorités ne valent pas mieux que les majorités, mais que tout le monde a sa place dans une société. C'est aussi ça, parfois, la réflexion de la littérature. Cette nouvelle, c'est une nouvelle de science-fiction, c'est un hommage à Ada Lovelace, mais c'est aussi, en ce bicentenaire de la nouvelle, il fait allusion au roman Frankenstein, c'est aussi, évidemment, un hommage à Mary Shelley, un hommage à Frankenstein, puisque cette machine, c'est une sorte de Frankenstein, mais plutôt sympa.
Oui, tout à fait. Après, c'est fascinant parce que je connaissais le personnage d'Ada Lovelace. Pareil, quand on tire des fils, on a l'impression que ça nous est servi sur un plateau. Ada Lovelace, c'est la fille de Lord Byron. C'est quand même pas rien. Lord Byron qui donc fait le jeu littéraire donc avec Mary Shelley sur la qui va ensuite ancré Frankenstein. Donc là, on a quelque chose de complètement fascinant où là on est rattrapé par l'histoire en fait. Pareil, on a l'impression que c'est trop, en fait, c'est terriblement vrai. Et cette machine, elle est terriblement sympathique parce que je voulais justement... Alors là, on est vraiment dans la science-fiction, on est dans l'uchronie, parce qu'il y a ainsi... l'intelligence artificielle arrivait un siècle et demi plus tôt. Et surtout, c'était un personnage que je voulais le plus naïf et qui pose les questions tout au long du récit, hormis qui elle est, elle va essayer de comprendre le monde. Et elle va, je pense qu'elle va pas le comprendre en fait jusqu'au bout parce qu'elle comprend pas la complexité humaine et parfois elle ne comprend pas pourquoi l'humain se complique tellement la vie socialement, politiquement. Elle va se rendre compte peut-être qu'elle arrive trop tôt dans un monde qui est pas du tout prêt à l'accueillir. Voilà.
On arrive à la fin de ce café littéraire. C'est toujours, je le disais en l'ouvrant, un moment extrêmement agréable et émouvant d'accueillir le coup de cœur du festival. C'est un auteur qu'au départ avait juste une ou deux interventions, qu'aujourd'hui en a un nombre multiple, est présent sur tous les fronts, passe à la télévision. C'est une façon de mettre en avant les nouveaux auteurs de la littérature d'imaginaire que nous aimons. Avec Jean-Laurent Del Socorro, c'est un vrai bonheur. Peut-être nous dire avant qu'on se quitte un petit mot sur votre projet. Vous êtes en train, vous en parliez, ce qu'aurait dû être votre deuxième roman, et puis Boudica est arrivé à perturber l'ordre établi de vos projets. Mais votre troisième roman est déjà en cours d'écriture. Cette fois-ci, nous emmenez au 19e siècle, vous nous emmenez aux États-Unis. Vous allez nous parler d'une guerre civile américaine, vous avez compris. C'est la guerre de sécession, et c'est vrai que je ne me souviens pas de roman français évoquant la guerre de sécession.
Alors il y en a quelques-uns, mais c'est vrai que c'est une préoccupation qu'on a peu. C'était vraiment ce sera un récit choral, donc avec multitude de personnages encore plus éclatés que ne l'était Royaume de Vent et de Colère, quelques fils qui seront tirés par des personnages, puis des personnalités, donc je mélangerai personnalités de fiction et personnalités historiques, avec une partie fantastique légère comme dans mes romans préférants, mais aussi qui sera présente. Ça, oui, c'est une période qui m'a fasciné parce que c'est une période charnière et on retrouve pareil des combats. Ça pose la question de l'identité d'un pays, d'une guerre civile, de fractures énormes, d'idéologie, de l'esclavage, du racisme. Enfin voilà, donc un roman léger pour l'été, comme vous pouvez le constater. Un roman ambitieux, peut-être trop ambitieux, c'est peut-être pour ça que c'est bien que ce soit un troisième roman. C'est quand même compliqué. Et je me rends compte que c'est avec toute l'humilité, avec pareil encore une fois humilité, que ce ne sera un roman de la guerre de sécession vu par un Européen, parce que je me rends compte que de façon identitaire, cette guerre est tellement importante pour les États-Unis qu'à moins d'être un Américain ou d'avoir un ADN très complexe d'historien, c'est très difficile d'aborder la complexité intrinsèque de cette lutte. Mais je veux voir qu'il y a des personnages, des grands comme des petits, de Lincoln jusqu'aux guerriers du premier rang, des hommes comme des femmes. Vraiment, il faut rendre hommage à cette période sur laquelle des grands changements ont eu lieu.
Je ne sais pas si déjà tout est bouclé, mais j'aimerais bien, Jean-Laurent Del Socorro, vous suggérer un personnage qui est un personnage historique intéressant, on en parlera. Alors, découvrir notre coup de cœur 2018, découvrir les romans tout à fait magnifiques de Jean-Laurent Del Socorro et ses nouvelles, c'est évidemment le tout dernier, le second, Boudica, que vous trouvez aux éditions ActuSF, et vous pouvez évidemment lui faire signer les livres. Ensuite, là, vous avez vraiment le choix. La version pas chère, la réédition, c'est aussi le but du livre de poche, des livres de poche, des différentes collections. Là, c'est chez J'ai lu. Vous avez donc Royaume de vent et de colère, le vent au singulier et les colères au pluriel. Vous avez évidemment la première version, grand format, chez ActuSF, du même roman. Et puis, c'est le début de la gloire, une belle réédition cartonnée pour 2 € de plus que la version brochée. Vous avez un magnifique livre que vous pouvez offrir, y compris, parce que quand on aime un roman, on l'achète pour soi, et puis on a toujours des amis ou des parents qui vont faire découvrir, y compris par une porte accessible, et parfois des romans plus pointus pour amateurs de genre. Là, je pense que c'est un roman qui est lisible par tout le monde. Royaume de vent et de colère, la version cartonnée, tout à fait magnifique. Et puis évidemment, Créature, l'anthologie 2018 du festival. Là, je suis encore extrêmement tolérante, mais évidemment, à partir de demain, nous contrôlerons à l'entrée que vous avez bien votre livre. Vous pouvez vous le faire d'ailleurs dédicacer par Jean-Laurent, l'anthologiste, et tous les auteurs, sauf un, Olivier Gechter, qui n'était pas libre cette année, mais qui sera parmi nous. Vous serez obligé de ramener le bouquin pour faire dédicacer le dernier auteur de la série. Un dernier mot pour Jean-Laurent ?
Très vite, juste pour dire que pour l'édition collector dont je suis très fier, elle contient également une nouvelle qui n'est plus disponible dans le même univers, voilà, qui vient compléter, qui se passe le jour de l'édit de Nantes. Voilà, c'était pour dire ça. Encore une fois, merci vraiment d'être le coup de cœur. Merci aux Imaginales. Merci à la ville d'Épinal pour ça. Et un dernier mot, Boudica, un énorme merci à, parce qu'il faut pas oublier aussi que Boudica, j'ai bénéficié d'une bourse d'écriture, le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes qui m'a permis de libérer du temps pour écrire. C'est important de le dire. Et l'agence pour le livre Auvergne-Rhône-Alpes qui m'a soutenu dans cette démarche. Encore merci.
Bravo Jean-Laurent, il est sous la bulle du livre. Allez acheter ses livres.